Jean-Richard Bloch. Lévi, partie 2. Sans trop savoir comment, le voyageur se trouva dans la salle à manger du Juif. Il entendit le bruit d'une grosse chaîne de sûreté qu'on fermait derrière lui. Un instant après, Lévi le rejoignait, triste, mais souriant et toujours craintif. La table était ronde, comme chez l'autre. Toutefois, les volets étaient pleins et tout se taisait, sauf un chuchotement de voix qui venait de la cuisine, à côté. Dans la suspension en faux bronze, de l'espèce louée au mois par les compagnies, le gaz dormait en veilleuse avec des saccades. Lévi se souleva sur la plante des pieds vers le robinet, son ventre glissa le long de la table, puis déborda dessus. La lumière verte du Bekoer se répandit tout à coup dans le globe de porcelaine rose et de là inonda la pièce avec un sifflement étouffé. Le voyageur s'aperçut alors qu'il n'y avait pas de nappe, mais une toile cirée à carreaux rouges et blancs, écaillés. Il fut très surpris de voir 9 couverts dressés autour d'une si petite table. Puis, il sentit des yeux immobiles qui le regardaient quelque part, fixement. Il hésita, chercha, se retourna. 2 enfants, assis sans bouger au fond de la pièce, le contemplaient. Les regards humides scintillaient dans l'ombre. Ce n'est pas une mince entreprise que de supporter sans perdre contenance l'attention obstinée d'un enfant, à plus forte raison de 2. Le voyageur, en butte à cet examen plein de gravité, se démena pour y échapper. « Vraiment, je suis confus, mon cher monsieur Lévi, je n'aurais pas dû... » Le petit homme gras fit de la main un geste si mesuré, si noble, que le voyageur s'arrête à court. Il n'avait pas prévu que ce juif pût bouger sans se couvrir de ridicule. Mais le juif était chez lui, hôte, prêtre et maître de maison, et non plus dans la rue où toutes les aventures menacent l'homme et la marchandise. Quand on y réfléchit, cela suffit à faire une différence. « Les charmants enfants !» dit le voyageur, dans la basse intention de se faire agréer par les 4 yeux noirs. David, Julie, un garçon et une fille, répondit l'homme en les regardant. L'orgueil engraissait le ton de sa voix, mais il s'abstint de les déranger. Ils ne sourcillèrent pas plus que s'il ne s'était pas agi d'eux. Alors, brusquement, il se passa quelque chose d'inattendu et d'affreux. Un sourd piétinement de frelons en colère montait depuis quelques instants dans la rue. Sur un signal, il éclata tout à coup en vocifération. Les volets résonnèrent lourdement, des injures ignobles sifflèrent, des coups de canne fouettèrent les barreaux du soupirail. Un tumulte de foule furieuse battit la petite boutique. Une masse lourde frappait à coups réguliers la porte dont le bois craquait.
« Salaud, salaud! À mort les youpins! À mort les youtres, salaud! Les cochons, les traîtres, vendus! Mort aux juifs, mort aux juifs! On aura les tripes du Lévi et le cul de sa salope de putain! Youpins, salauds, prussiens, allô les mômes! Graines de vendus, graines de youpins! C'est leur tripe qu'il nous faut, faux, faux! »
Sans transition, la Marseillaise anti-juive éclata. Le bruit était profond et enflé. Il disait la grandeur de la foule qui était là-devant. La petite boutique résonnait comme l'intérieur d'une caisse à tambour sur laquelle un enragé aurait battu la charge. Des coups plus secs, des sifflements stridents et le choc grêle des cannes contre les ferrures des volets tranchaient sur le grondement massif de l'émeute. Mais sans arrêt, battant les 2 secondes, la masse lourde tombait sur le bois de la porte qu'elle broyait peu à peu. Le voyageur avait mis la main à sa poche revolver. Le sang lui battait dans les yeux. Il regarda d'un air hébété autour de lui en retenant son souffle. la salle à manger s'était remplie de visages pâles. À la porte de la cuisine, une femme de petite taille, au nez maigre et aux yeux ardents, écoutait fixement. Derrière elle, une figure épaisse et deux gros yeux ternes d'homme suaient l'angoisse sous la crépelure d'une tignasse laineuse. Un vieillard était tombé sur une chaise. La lumière du gaz reflétait sur son front élevé. Ses mains maigres passaient en frémissant dans de grands cheveux blancs. Un long albinos voûté clignait des yeux en se rongeant les ongles et ses épaules remontaient avec des secousses nerveuses. Une voix de vieille arriva.
« Mein Gott, mein Gott !»
Puis continua en un jargon incompréhensible sur un ton de colère pleurarde. Le voyageur vit cela et se sentit au milieu d'un autre peuple, en d'autres temps, plongé dans des mœurs étrangères. Il éprouva ce vertige anormal, cette horreur sans racines qui sont nos sauvegardes au long des pires cauchemars. Il reconquit assez de lucidité pour se demander ce qu'il faisait parmi ces gens-là. Puis un tintement cristallin et grelottant heurta son ouïe. Il eut la notion d'un objet pondérable qui traversait l'air à un doigt de son front, tombait sur la table, brisait net le dessous de plat et s'en allait mourir sur le plancher. Ce fut le réveil. Il se redressa brusquement.
« Mais nom de Dieu ! Ces animaux-là vont nous tuer ! Qu'est-ce qu'ils ont donc contre vous ?»
Lévi se tenait appuyé sur le dormant de la porte qui menait à la petite boutique. Il supputait la force de résistance des volets sur qui le bélier retombait toutes les deux secondes. Boum ! Boum ! Ses lèvres avaient tourné au vert. Il murmura « C'est le suicide du colonel Henri, cette nuit, au Mont-Valérien. Vous ne savez donc pas ?» Le voyageur n'avait pas lu le journal. Il ne connaissait de l'affaire que ce qu'on en racontait à table d'hôte ou dans les couloirs d'express. Il n'y attachait pas grande importance.
« Ce n'est pas une raison pour nous assassiner. Qu'est-ce qu'ils ont cassé ?»
D'une ébauche de gestes, Lévi montra le petit carreau brisé d'une imposte que le volet de la porte d'entrée ne couvrait pas. Mais un changement s'était fait dans le bruit de la foule. Un demi-silence où se percevaient des chuchotements et des rires, mais où la basse grondante du rassemblement subsistait pour signifier qu'ils restaient là tous.
« Qu'est-ce qu'ils machinent maintenant ? Ce sont donc des sauvages chez vous ?»
Et ailleurs, souffla le petit marchand avec une inexprimable amertume. Le voyageur comprit quelque chose. À vrai dire, il commença à le comprendre de chaque côté de la colonne vertébrale où un froid lui courut. Et il se tourna vers le juif, comme s'il ne l'avait pas encore vu, avec une sorte d'antipathie respectueuse. Mais il n'eut pas le loisir de se livrer à des réflexions d'ordre historico-ethnique. Une épouvante passa sur les visages qui remplissaient la pièce. Et cela le fit pivoter sur place aussi rapidement qu'il est donné à un être humain de le faire. Le demi-silence de la foule s'était épaissi. En haut de la porte d'entrée, par l'imposte brisée, une face ignoble de voyou s'élevait avec précaution. Sans doute grimpé à califourchon sur deux camarades superposés, il se hissait en prenant son temps. On vit d'abord, dans la pénombre, sa casquette de cycliste, puis des cheveux en désordre, puis une paire de petits yeux méfiants, puis, tout d'un coup, la figure et les épaules. La bouche ricanait nerveusement. Il cligna des yeux pour distinguer quelque chose à travers la nuit de la boutique. La porte de la salle à manger devait se découper comme un rectangle lumineux. Le voyou regarda avec circonspection. Puis, il éclata de rire.
« Oh, les cochons sont au fond dans leur turne ! Il n'y a qu'à y foutre le feu ! On les aura comme on voudra !»
La voix retentissait dans la pièce même, étrangement proche. Le regard du drôle s'alluma sur un guidon de bicyclette qui mettait un reflet de nickel dans le magasin. Il reprit avec fureur.
« Faut y foutre le feu ! On aura les youpins et les machines qu'ils ont volées !»
Les vociférations se levèrent de rechef en rafale.
« Faut y foutre le feu !»«
Faut faire griller les tripots youtres !»«
On reprendra les machines !»
Le visage du voyou dansa dans l'imposte. Son échelle vivante devait bouger. Il hurla.
« Garde donc là-dessous ! Et tas de merdeux !»
Il perdit l'équilibre, se raccrocha machinalement aux débris de vitre qui tenaient après le cadre, se coupa, poussa un juron et disparut à la façon d'un polichinelle de guignol. Lévi se tourna vers sa femme. « C'est le garçon de chez Chartier, tu as vu ?» Et il sourit faiblement. Les coups de canne, les sifflets à roulettes, le bélier, les pierres reprirent. Mais des lueurs d'une espèce nouvelle naquirent dans le trou de l'imposte. Les gens de la petite salle se regardaient en blêmissant. Ce devait être des journaux qu'on enflammait.
« Ah, ça, est-ce que j'ai ma tête à moi ? Mais c'est qu'ils vont le faire comme ils le disent !»
s'écria le voyageur. Il dévisagea successivement chacun de ces pauvres diables. Il reconnut la terreur, la haine, l'angoisse, poussée jusqu'à l'agonie. Pas un signe de révolte. Alors, il fut secoué par un mépris sans borne et posa sur la table, d'un air provoquant, son revolver, un petit Browning bronzé de 1995 dont il ne s'était jamais servi. La vieille femme, dans la cuisine, éclatait en cris stridents. L'homme de haute taille, à la barbe noire correcte, aux yeux bruns et à la peau nette, se sentit vraiment d'une race supérieure. Le mot d'Arien lui revint. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais il comprenait qu'il ne voulait pas mourir et que ces gens-là se laisseraient égorger comme des moutons. « Je suis un Arien, entendez-vous ? Un Arien ! Voici mon revolver. Faites la terre ! Le premier qui entre, je l'abats !» Des vieux souvenirs de romans militaires agitaient sa nature pacifique. Il avait pris un ton de commandement. Une seconde figure, éclairée par en bas de reflets cuivrés, montait devant l'imposte. Une figure de séminariste, singulièrement excité. Il était clair qu'il se préparait à jeter les journaux enflammés dans la boutique. D'une voix brève, son ancienne voix de sergent de réserve, le voyageur ordonna.
« Ouvrez les robinets. Remplissez les brocs. Moi, je vais là. »
Il prit son revolver et pénétra dans la boutique. La chose se passa vite et avec une grande simplicité. On entendit une voix grave dans la nuit.
« Le premier qui entre, le premier qui lance quoi que ce soit par cette ouverture, je lui envoie une balle dans la tête. Je ne suis pas un juif, mais je ne tiens pas à crever ici comme un chien. »
Le séminariste dégringola avec célérité d'une position par trop exposée. Il y eut un remous dans la foule. Alors, le voyageur fut visité par une inspiration. Il s'approcha de la porte et en mania le loquet intérieurement. Puis, à haute et intelligible voix,
« Les gendarmes, avec moi ! Prenez garde au vélo !»
Le bruit du loqueteau et la résonance très timbrée de cette voix produisirent un effet prodigieux. Quelques galops de semelles sonnèrent en s'éloignant sur la chaussée. Ce fut le signal de la débandade. Une voix prudente cria
« Vive l'armée ! Vive les gendarmes !»
La foule reprit avec d'autant plus de cœur qu'elle était envahie par la venette. Un malin, qui était peut-être un policier, saisit la conjoncture au bon et ajouta
« À la caserne ! Allons saluer les petits soldats !»
Ce fut la vanne levée qui vit d'un étang. La masse s'ébranla. On en perçut la longue houle contre les volets de la boutique, derrière 15 mm de bois. Le grondement des conversations pacifiques se mêlait à la vibration clapotante des pieds sur le sol. On ne pensait plus à Lévi. Les gens étaient fort contents de s'en tirer honorablement avant les derniers excès. Un ou deux cris de
« Mort aux Juifs !»
sauvèrent, sans écho, l'honneur de la retraite. Le voyageur s'usait le pouce à lever et à abattre le cran de sûreté de son petit Browning. le sentiment d'une écrasante supériorité engendre la bonhomie. Il rentra dans l'arrière-boutique avec un sourire qui découvrait ses dents très blanches au-dessus de sa barbe brune.
« Pas plus malin que ça, vous voyez ?
Et maintenant, si on dînait ?» La vieille femme, sur le seuil de la cuisine, contemplait le dégât et le voyageur à coup d'œil rapide. Elle marmottait. Les autres, les regards caves, lui répondaient par intervalles avec de brèves syllabes sifflantes. Et tous guettaient à la dérobée, sans admiration, mais avec stupeur, cet étranger qui parlait si haut et si clair. Tant de désinvolture mettait entre eux et lui un vide. Valentin Loubatier se sentait un peu gris. Il ne remarquait pas. Il prit un couteau à manche de bois noir et bâtit un rappel sur le bord fendillé de la toile cirée. Lévi, toujours appuyé sur le dormant de la porte qui menait à la boutique, faisait craquer d'un air gêné ses phalanges humides aux touffes de poils rouges et regardait le plancher. Il percevait tout. Ses contrastes et ses brutalités se résumaient en une souffrance affreuse. Il y a des ponts qui relient deux continents et enjambent un détroit. Avez-vous jamais pensé à l'ingénieur qui les dessina ? C'était peut-être un brave petit gâte-zard, à 2004 par an, déplacement payé, ou une bonne tête ronde tondue à l'allemande, du Polytechnicum de Zurich. Mais il y a des choses qui ne se lisent pas dans le Rézal et que n'explique pas suffisamment la formule des contreventements, fût-ce à la septième décimale. C'est la poussée diverse, contradictoire, qu'exerce sur un tablier une poutre droite, une pile et une culée de pile, les semelles de cuir de l'Europe et les sandales souples de l'Asie. Et lorsque, là-haut, le trottinement grêle des unes contrarie la lourde cadence des autres, sait-on ce qui se passe dans la pensée obtuse du métal ? Il n'y a plus de règles qui tiennent. La matière se met à travailler au-delà des formules connues. Alors, l'ingénieur descend sur la berge du détroit en se prenant le front à deux mains et déclare qu'il ne comprend plus rien à ce qui se passe dans son pont.
« J'aurais désiré vous offrir un meilleur potage, » dit enfin le petit marchand, sans regarder le voyageur.
« Bof, mon cher Lévi, » répondit l'autre en lui frappant sur l'épaule, « si vous appreniez à vous servir des petits brownings et à faire un peu des pâtes, tous ces gens qui étaient là seraient les premiers à vous saluer très bas. Vous jouent-ils souvent de ces tours-là ?»«
Des fois, » murmura évasivement le boutiquier. Il apprenait la honte.
Mais la vieille dame au caraco de pilou rougeâtre éclata en plainte criarde.
« Toujours comme ça, pas une semaine sans crapuche et sans champard. Tout le monde qui fit un fou s'insulte et vous crache à la figure. Et le gouvernement qui est avec eux et la police qui est au champ. »
Lévi l'interrompit avec circonspection.
« Allez donc en Roumanie, en Russie, Sarah. Monsieur vous le dira, c'est encore pire que par ici. Et puis, il faudrait penser à dîner. »
La jeune femme au nez maigre, qui n'avait rien dit, rentra dans la cuisine en refoulant la vieille. Le voyageur s'assit carrément. Et de nouveau, il sentit des yeux immobiles qui le regardaient quelque part fixement. Il ne pensait plus aux enfants. Mais il savait où les retrouver. Il se retourna. Les quatre yeux noirs s'ouvraient toujours à la même place.
« Hé, les mioches ! On n'a pas eu peur !»
Les mioches ne bougeaient pas. Les yeux ne se baissèrent pas. Le petit boutiquier soupira.
« Ils sont habitués. Quand ils vont à l'école, on leur jette des pierres, on leur déchire leurs livres et leurs habits. » « C'est un bien grand malheur pour nous que cette affaire. »«
Attendez, ne les envoyez plus à l'école, ça passera. »« Il faut qu'ils étudient. Qu'est-ce qu'ils feraient dans le monde s'ils n'avaient pas d'instruction ? Dites !»
Avez-vous appris vos leçons, les petits ?» Un des petits, sans parler, inclina la tête. Lévi se retourna vers le voyageur. « Je ne vous ai pas présenté, ces messieurs. Oh, c'est à cause de tout ce tintamarre. » Il eut l'air d'hésiter un instant, puis « Je ne vous ai pas remercié non plus. Vous nous avez tiré d'un... Vous avez été crâne, tout à fait. Pour un chrétien, c'est bien. C'est rare, vous savez. » Le voyageur tendit la main en avant avec fatuité. Vraiment, ces pauvres gens faisaient peine à voir.
« Je me suis défendu en même temps que vous. C'est que je tiens à ma peau, moi. »
Il regarda ses trois autres interlocuteurs avec la suffisance d'un juge d'instruction. Précipitamment, Lévi les lui nomma. Davidovitch, l'ouvrier fourreur, c'était le vieillard, Salmon, le directeur de Caïfa, l'albinos, et Mayer, le tailleur de la rue Gambetta. C'est tout. Nous ne sommes même pas en nombre pour former une communauté. Nous sommes tous les quatre d'un côté et la ville de l'autre. Si nous étions 10, nous formerions une communauté. » Les trois silencieux se mirent à murmurer en chantonnant avec désespoir et en agitant doucement la tête comme s'ils accompagnaient un office, les lèvres serrées. « Il faut être 10 pour former une communauté. Nous sommes 5. » Le voyageur, poliment, leva les sourcils d'un air d'interrogation. Il les recomptait des yeux. Lévi sourit avec la même tristesse noble qui avait déjà, une première fois, surpris l'étranger. 5 dans la ville, mais 4 ici. L'autre, c'est Veil. De nouveau, les trois silencieux émirent leur bourdonnement nasillard en secouant la tête d'un air de désolation. Veil, le professeur au lycée, il ne nous connaît pas. Il ne nous salue pas. On espérait, quand on a lu sa nomination, un professeur au lycée, avec nous. Ah, monsieur, pire que les autres. Avec le petit qui aura ses 13 ans dans 18 mois, on aurait déjà été 6. Avec le fils de Davidovitch, qui fait son service, on aurait été 7. Il n'en aurait plus manqué que 3 pour faire la communauté. Mais ce sont toujours les plus distingués parmi les nôtres qui nous abandonnent les premiers. Il n'a rien tant peur que d'être pris pour un des nôtres. » L'albinos dit d'une voix pâteuse et sourde, « Quand on manifeste, il allume une cigarette et passe en souriant. » Le vieillard leva brusquement la tête. La lumière zigzaga le long de son crâne nu et vint se loger en frémissant dans la cavité des yeux. Le regard flamboyait. « Mais il se ment à lui-même. Cela se lie à son âme. Il sera puni et maudit par Dieu. » Le voyageur fut réveillé de sa torpeur par l'éclat écorché de cette voix. Elle lui rappelait celle du juif de Cerbère, mais avec un accent guttural et précipité qui l'emmenait loin d'Espagne. Mayer ajoutant en bredouillant, « Il a beau faire, ils le prennent toujours pour ce qu'il est, et ils ne lui parlent pas. » L'épaisse joie de vivre que le voyageur avait rapportée dans l'arrière-boutique cédait peu à peu devant la persistance de ses plaintes. Il eut envie de secouer cette tristesse morne. On se mettait à table. Il déplia sa serviette d'un geste ample et poussa son assiette de manière à faire tinter son verre. « Eh bien, qu'il reste où il est et qu'il y crève. Qu'est-ce que ça peut bien vous fiche d'être 6 au lieu de 7 ? Vous ferez votre communauté un autre jour. Les braillards sont partis et ne pensent plus à vous. Bon Sansor, vous n'allez pas prendre le deuil pour ces 2 douzaines d'ivrognes. » Il diminuait le nombre de ses vaincus. Il s'amusa intérieurement de ce sacrifice d'amour-propre. Mais ces gens n'étaient que des enfants. Les hommes se trouvaient là-bas, de l'autre côté, quelque part dans le monde. Ici, les sentiments normaux n'avaient plus cours. On se rapetissait sans risque. Personne ne le saurait. Il ne put réprimer un sourire en jetant un regard autour de la table. Il ajouta, par condescendance, « Les mauvais jours passeront, vous verrez. » Et c'est qu'il le croyait.
il fit courir sa main dans sa barbe. La vieille Sarah apporta la soupière qui fumait. Une odeur d'oseille acidula l'air. Le voyageur s'aperçut qu'il mourait de faim. Il se sentit pénétré de paix et de contentement.
« Quand ils seront loin, vous trouverez ici la vie meilleure. »«
La vie, c'est la lutte, la bataille. Moi, je ne connais que ça. »
Comme il disait ces mots, il tenait le nez baissé sur son assiette pleine. Une vague inquiétude lui fit lever la tête. Le vieillard, une manche de veston retirée, enlevait sa manchette droite. Il tira sa chemise. Le bras long, maigre et poilu, sortit jusqu'au coude du linge douteux. La pâleur blafarde de la peau d'un homme est douée d'une force de répulsion qui va, pour certains, jusqu'à la nausée.
Le voyageur reposa sa cuillère fumante.
Il vit Davidovitch tirer de sa poche une vieille calotte de fourrure et s'en coiffer. Les autres passèrent d'un air las leurs serviettes sur leur tête. Il restait assis, mais les deux femmes et les enfants se tenaient debout, à l'écart. Le vieux prit une sorte de lacet noir et l'enroula en marmottant autour du pouce, du poignet et du bras. À certains moments, les trois autres projetaient le buste en avant, tout en proférant, avec force, deux ou trois syllabes qui s'éteignaient en un murmure indistinct. Ils suivaient de mémoire, et avec ennui, semblait-il, le texte que le vieillard psalmodiait. En relevant la tête d'un cran, le voyageur croisa le regard de la vieille qui se posait sur lui avec haine. Il détourna le sien sur les petits. Le garçon le frappa par son nez épais, ses oreilles décollées, ses dents saillantes. Les yeux étaient beaux, mais leur éclat humide, qui tout à l'heure l'attirait, le repoussa. La fille avait de longues boucles et des lèvres rouges. Il se rappela avec dégoût une caricature de forain. Il dut se retenir pour ne pas ricaner. Qu'est-ce qu'il faisait là? Était-ce là les gens de sa race, de son clan? Ses mœurs? Il ne connaissait pas les rites des Juifs. Non, faute d'en avoir blagué dans les cafés, ou même avec eux. Mais il les croyait éteints depuis longtemps, et les Juifs l'avaient obligeamment enfoncé dans son erreur. Et voilà que ces étrangetés risibles prenaient corps autour de lui, dans cette arrière-boutique d'un magasin de cycles, sous les pierres et les insultes.